RCF.
Nous continuons à parler de l'humilité avec vous, frère Benoît Standart. Je rappelle que vous êtes moine bénédictin, rattaché à l'abbaye bénédictine Saint-André à Bruges, que vous vivez en ermitage et que vous avez écrit un journal de l'humilité sur plusieurs années, paru chez Salvatore. Alors dans ce livre, vous vous appuyez sur des pères du désert, des grands fondateurs aussi. Il y a Saint Bernard notamment, qui vous est cher, qui parle des étapes pour vivre l'humilité. Et alors lui, il dit que la première des choses très importantes, c'est de regarder sa fragilité, voire sa misère.
Oui, c'est une démarche stable et continue. Quand il parle de l'amour ou quand il parle de l'humilité, la première chose, c'est ce regard sur soi-même. Donc également, quand il exhorte à l'amour, le premier amour, c'est l'amour de soi. C'est un peu étrange pour nous que ce soit le premier amour. Et ici, le premier réflexe, c'est réaliser ma propre misère. En second lieu, je découvrirai que je suis misérable avec des misérables. Et je vais donc découvrir que je dois être charitable, que je dois être patient, que nous sommes tous des misérables.
Que je ne suis pas au-dessus des autres.
Je ne suis pas au-dessus des autres et je suis solidaire d'une même misère avec les autres. Et donc, la vertu de charité va devenir le deuxième degré d'humilité. Et puis, dans un troisième temps, il va remonter à Dieu, qui est la miséricorde même pour ma misère comme pour la misère des autres. J'ai besoin du salut de Dieu pour être capable d'être charitable les uns avec les autres. Et donc, l'amour de Dieu et l'humilité vers Dieu vient en troisième lieu. Il y a eu un colloque assez célèbre sur la règle de Saint Benoît, dans l'année 1980, à Rome, et un dominicain qui faisait une relecture remarquable sur la règle de Saint Benoît terminait, il avait devant lui tous les abbés, bénédictins et trappistes. Je peux quand même vous dire une chose, qu'avez-vous fait de la pauvreté, vous, avec vos monastères splendides et luxueux et baroques, etc. C'était une pointe sympathique, hein, pour un peu provoquer. Il y avait des partages, et dans un des partages francophones, c'est Don André Louf qui prend la parole. Et il dit oui, le père Dominicain a lu très attentivement notre règle, mais peut-être qu'il n'a pas tout vu. Et il commence, comme Saint Bernard, la première chose, dit-il, le moine dans la règle de Saint Benoît ne peut même pas posséder son propre corps. C'est quand même une fameuse pauvreté. Il n'a pas accès à disposer de son propre corps. Et donc, rappelons-nous l'instinct de conservation, etc. Jusque-là, il n'est pas le maître de sa propre maison. Deuxièmement, de nouveau Saint Bernard est là derrière, dans la règle de Saint Benoît, on ne donne pas à tout le monde la même chose, on s'écoute mutuellement et on tient compte de la pauvreté de l'autre.
Quel type de pauvreté, par exemple?
Bien, au réfectoire, tout le monde ne mange pas la même chose. On a deux plats, certains ne veulent pas de ceci, mais veulent bien de cela. Le serviteur et le maître de la cuisine donnera selon les besoins. Également, un maître de novice qui n'aime pas la musique, il dit « personne n'a besoin de la musique ». Il aime le sport, tout le monde a besoin du sport. Non, ça ne marche pas comme ça, dit Saint Benoît. On écoute les besoins des uns et des autres, et même si ce n'est pas un besoin pour moi, je vais satisfaire le besoin de l'autre. Et ça, c'est une charité, et je découvre alors qu'on est tous en besoin. Moi aussi, mais je dois tenir compte du besoin de l'autre qui n'est pas le même que le mien. Et troisièmement, il dit, il y a un personnage dans la règle, et dans toutes les communautés, nous avons de ces personnages, ils sont perdus. C'est le 12e degré d'humilité, c'est quelqu'un qui court dans le monastère, et dans son cœur, il n'y a plus que la prière du publicain. Et il n'est récupérable par aucun système, il est pauvre, et ils disent, dont André Louf, on ne sait pas l'imiter. Si je copie ce qu'il fait, je ne serai jamais humble comme il est.
Oui, c'est unique. Hein.
Il est rendu humble jusqu'à ce point.
frère Benoît Standart, vous évoquiez la règle de Saint Bernard et vous parliez de l'amour de soi, l'importance de l'amour de soi. Alors c'est intéressant parce qu'on se dit, oh, bah, quand on est humble, peut-être en christianisme, il faut pas se regarder, il faut se mépriser. Qu'est-ce que vous diriez sur l'articulation entre amour de soi et humilité?
Pour Saint Bernard, cet amour de soi et cette humilité, c'est aussi la reconnaissance de ma pauvreté, de ma misère, de mon incapacité de me sauver moi-même. Reste que tous les traités, également le grand saint Thomas, quand il traite du premier commandement de l'amour, revient sur « ayons un regard positif sur nous-mêmes ». Si je suis incapable de m'aimer, si je me déteste tout le temps, si je ne sais pas pardonner même à l'intérieur de ma propre existence, je vais devenir imbuvable pour toute relation. Et donc, ne négligeons pas et ne sautons pas au-delà de cette première réalité. Le psychologue Jung disait, il faut aimer les plus petits de mes frères qui ont faim, qui ont soif, etc. Eh bien, ça veut dire aussi, et c'est une des choses qu'un ermite découvre, hein, le premier petit frère en besoin, c'est moi-même. Et je ne dois pas le détester si je veux réaliser l'idéal de l'Évangile.
C'est bien que vous parliez de l'ermitage parce que vous êtes ermite, hein, je le rappelle. Mmh. Pour vivre l'humilité, il faut des frères. Comment ça se passe, l'articulation d'une vie de solitude et puis cette question de l'humilité?
On n'est jamais tout à fait abstraitement coupé des uns et des autres. Déjà, la démarche de quitter une communauté pour entrer dans une vie plus érémitique, parce qu'on n'est pas ermite à l'absolu, crée aussi des tensions et des surprises et des réactions diverses, et il s'agit de les gérer. Et j'en parle régulièrement en bas de notes comme ça de mon journal. Une telle attitude permettra d'accepter aussi que certains ne sont absolument pas d'accord avec le fait que je fasse cette démarche actuelle. Et c'est le cas pour tous les ermites. J'en ai connu 5 dans ma communauté. Nous étions 250 quand je suis entré en communauté. Donc, il y en a 4-5 que j'ai connus d'assez près, qui sont devenus ermites. Personne d'entre eux n'était porté... Par la communauté, porté haut les mains, non.
Mais alors, comment vous vivez l'humilité, justement, dans votre ermitage? Ça se traduit comment?
Par une douceur et une proximité des choses. Hein. Il y a une humilité à préparer le potage, il y a une humilité à faire son lit, il y a une humilité à se promener au milieu du bois. Les pieds sont un accès naturel d'humilité. La qualité d'une marche lente et attentive, je peux m'exercer à l'humilité. Donc tout ce qui est douceur est conjoint à l'humilité, comme tout ce qui est arrogant, tout ce qui est méprisant ou tout ce qui est vaniteux tourne le dos à l'humilité. Or, même en solitude, on peut être vaniteux, on peut être arrogant, on peut être colérique sur des bêtises parce que quelque chose ne marche pas, parce qu'on casse un verre ou on laisse tomber une tasse de thé. Savoir être doux avec les objets et avec soi-même, sans oublier qu'il y a des hôtes, il y a des coups de téléphone, on est régulièrement interpellé par l'autre humain. Et toute la correspondance est souvent un exercice de patience et d'humilité.
Vous parliez des pieds. Vous dites justement dans le livre que l'humilité, ce n'est pas quelque chose d'éthéré, mais ça s'incarne. Mmh. Vous parlez de la place de la respiration, de la marche, de l'assise, se tenir aussi. On sait que Jésus, par exemple, à des moments cruciaux, comme les béatitudes, il s'assoit. Oui. Donc le corps est partie prenante.
Constamment, oui. Mais la position assise dans les évangiles, c'est toujours une position d'enseignant. Donc, quand, dans la barque, il s'assied pour enseigner les paraboles, mais ça veut dire qu'il enseigne. Les élèves sont debout et le maître est assis. Donc c'est un code aussi dans lequel les évangélistes essayent de traduire comment, notamment chez Matthieu, Jésus prolonge l'attitude didactique de Moïse.
Et on peut le lire aussi comme une sorte d'incarnation d'une place qui ne veut pas dépasser les autres. Je pensais à l'épisode aussi de la femme adultère où il se baisse pour engager un dialogue avec cette femme.
Donc, quand il se baisse, c'est pour éviter de se trouver au même niveau où se pose la question de la femme. C'est donc à l'égard de ces accusateurs de la femme qu'il rejoint la terre, qu'il écrit dans le sable. Il n'est pas en relation avec la femme à ce moment-là, il est en relation avec l'obligation de donner une Torah, de donner une mitzvah, une pratique. Quelle est sa pratique à lui? Les rabbins avaient leur pratique, et toi, quelle est ta pratique? Alors, en écrivant, en fait, écrit, c'est aussi en grec un synonyme d'accusé. En même temps, il écrit dans le sable et non pas dans la pierre. Et donc, il écrit et ça s'efface, comme s'il écrivait dans l'eau. Quelque part, il traduit déjà ce qui va devenir son attitude de fond. Moi non plus, je ne te juge pas. Il y a une loi, il y a des règles, ça s'inscrit, mais ce n'est pas le dernier mot, ça s'efface aussi.
Et pour le corps, alors, donc, vivre, l'incarner, cette humilité, ça passe par notre être de chair.
Oui, le corps, ça passe tout. Ça passe au niveau de tout ce qui est intelligence, au niveau de tout ce qui est émotion et au niveau de tout ce qui est corporel. Et même, ça s'accomplit dans cette corporalité. Et donc, un homme humble, ça se voit, je dirais, dans la manière dont il prend les choses. Toute la gestuelle eucharistique, pour moi, est une gestuelle qui doit rejoindre l'abandon christique. Et est-ce que je pourrais faire le moindre geste qui ne serait pas radicalement humble? Et donc, célébrer l'offertoire ou la fraction du pain sont des gestes hautement christiques et donc hautement pétris de l'abandon. Et ça passe dans le geste complètement.
Nous nous retrouvons demain pour poursuivre ces entretiens sur l'humilité. Merci à vous, frère Benoît Standart.